Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous nous retrouvons ce mois-ci pour notre chronique d'histoire locale. Vous vous souvenez que le mois dernier, on avait parlé d'archéologie avec notre invitée Marie-Christine Marinval. Et Marie-Christine a bien voulu revenir parmi nous pour continuer finalement à nous parler d'archéologie parce que c'est un domaine très, très riche, très complet. Il y a énormément de choses à dire. Marie-Christine, donc je vais vous présenter à nouveau. Vous êtes donc agrégée en sciences naturelles. Vous avez été enseignante à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et vous êtes docteur en archéologie environnementale. Un des sujets que je voulais aborder avec vous ce mois-ci, on a expliqué un petit peu le mois dernier ce que c'était que l'archéologie, et on a commencé à dire que finalement, il n'y a pas une archéologie, mais il y a différentes disciplines en archéologie, parce que c'est un métier qui est devenu assez diversifié, ça s'est professionnalisé, entre guillemets, et il y a différents métiers dans le domaine de l'archéologie. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer ça, Marie-Christine ?
Oui, alors tout d'abord, bonjour. Oui, aujourd'hui, l'archéologie, ce sont des métiers, en fait, qui ont tous un même objectif, c'est de retracer l'histoire, les techniques des sociétés du passé. Donc l'archéologie part de la fouille archéologique ou de l'archéologie du bâti, c'est-à-dire il existe encore des éléments en élévation, hein, si je prends le pont du Gard, par exemple. Mmh. Et puis, une fois que la fouille a été effectuée, que tous les relevés ont été réalisés, les photos, que tous les, ce que je vous ai appelé le mois dernier, les écofacts et les artefacts ont été collectés, ils arrivent ensuite dans des laboratoires, où là, ils vont être en premier nettoyés, observés, et ensuite étudiés. Étudiés, oui. Et c'est dans le cadre de ces études qu'on va avoir le plus de champs disciplinaires.
Et c'est ça qu'on ne faisait pas avant, ou qu'on faisait moins et
qu'on faisait beaucoup moins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en amont d'une fouille archéologique, l'archéologue chef d'orchestre, si vous voulez, doit s'entourer de personnes qui vont être son staff pour réaliser toutes ses études.
Il a un couteau suisse, finalement, l'archéologue, avec plein d'outils différents.
Exactement.
D'accord.
Exactement. Donc, ça va de des physiciens qui doivent nous aider à dater les couches archéologiques et donc les sociétés qu'on est en train d'étudier à travers leurs restes, en passant par l'archéobotanique, l'archéozoologie, en passant par l'étude de tout le mobilier. Donc ça peut être des spécialistes dans la céramique, des spécialistes dans le métal, des spécialistes donc comment on forgeait, comment ils ont réussi à extraire même du minerai à l'objet fini, de l'argile à la céramique, du sable au verre, et puis ça peut être donc toute l'histoire de la domestication et des animaux et des plantes. Et d'ailleurs aujourd'hui, avec cette crise de la biodiversité qu'on nous annonce, et on travaille aussi dans ces domaines-là, et moi particulièrement j'ai pas mal œuvré dans l'histoire de la biodiversité
de l'époque
sauvage. Eh bien, par exemple, j'ai piloté pendant une dizaine d'années un programme qui s'appelle Zone Atelier Loire, qui est labellisé entre autres par le CNRS, qui étudiait l'histoire de la biodiversité de la fin de la dernière glaciation jusqu'à aujourd'hui. Donc je travaillais aussi bien avec des collègues archéologues, des collègues historiens, que des collègues biologistes et écologues.
Et est-ce que vous avez pu découvrir que certaines espèces animales à l'époque ont disparu ?
Alors, oui, bien sûr, je vais prendre un animal mythique, par exemple, l'esturgeon.
Oui.
L'esturgeon, la dernière pêche d'esturgeon, si vous recherchez dans les archives du journal local, donc la République du Centre de l'époque, si mes souvenirs sont exacts, il a été pêché en 1904, et en fait, le jeune qui a pêché ce poisson, il n'était tellement plus connu par ces gens-là qu'ils ont pensé avoir pêché un monstre. Mmh. Et en fait, c'est l'éclusier ou l'ingénieur qui se trouvait sur place qui a dit c'est un esturgeon. Et on a pu, d'après la carte postale qui en a été tirée, c'était un esturgeon qui faisait dans les 1m80 à peu D'accord. près, donc un petit esturgeon. Mais nous, en fouille archéologique, dans les sédiments dont je vous ai parlé dans la première émission, on peut retrouver des plaques d'esturgeon. Et comme les poissons sont des animaux qui grandissent toute leur vie, en mesurant la taille d'une plaque, je peux vous dire quelle taille avait l'esturgeon qui a été pêché et consommé.
Donc ça, ça fait partie des indices.
Par exemple.
Donc on étudie l'animal, on étudie le végétal et on étudie le minéral finalement.
Oui, on étudie
énormément
tout,
de champs d'investigation. Il y a même des niveaux d'investigation encore plus petits. On peut aller jusqu'à étudier les semences, par exemple, qu'on va trouver, des traces de pollen même.
Oui, on descend même aujourd'hui, pour ceux qui ont un petit peu encore en tête la structure de l'atome, on descend même jusqu'aux atomes, les isotopes des atomes. Puisqu'on est dans le domaine de l'alimentation, j'en fais un tout petit flash, parce que c'est un champ disciplinaire qui a déjà presque une vingtaine d'années maintenant, eh bien, puisqu'on parle beaucoup de carbone avec ce réchauffement climatique, le carbone, l'atome le plus courant, c'est ce qu'on appelle le carbone 12. D'accord. Il existe le carbone 14 qui sert pour les datations car lui est radioactif. Et il existe le carbone 13. Donc un carbone 13 pèse un peu plus lourd qu'un carbone 12 et le carbone 14 encore plus. Eh bien le carbone 13 est pareil pour l'azote, l'azote 15 et son isotope. Eh bien lorsqu'on mesure, par exemple, dans le collagène, alors le collagène d'un os, quand vous faites un pot-au-feu, ensuite votre jus devient épais, et bien c'est le collagène qui est passé dedans, donc ce sont des protéines. Et bien en retirant, donc en mesurant le taux de carbone 13 par exemple dans ce collagène et l'azote 15, et bien on peut savoir si vous avez été plutôt carnivore ou plutôt herbivore.
D'accord.
Par donc exemple.
Ça, c'est des techniques finalement assez pointues, que finalement seuls les scientifiques peuvent appréhender, mais c'est des techniques qui vont être au service de l'archéologie en général pour comprendre, encore une fois, comment on vivait à l'époque. Et tout ça, c'est des techniques qui ont pu être utilisées récemment, depuis quelques années, mais il y a 40 ans, il y a 50 ans, on ne pouvait pas utiliser ces outils-là, enfin ces techniques-là, donc on procédait différemment.
Oui, alors, avant que ces machines n'existent et puis ne deviennent accessibles à l'archéologue, bien sûr, moi, l'archéologie, ça date du 19e siècle, même un peu avant, mais enfin, disons les premières fouilles correspondant un peu à des techniques avec des relevés plus précis, on va dire 19e, eh bien, ce que je suis en train de vous expliquer, les bouts d'os, et les graines dont vous parliez, on ne les ramassait pas.
Ouais,
on ne s'intéressait pas à ces questions-là. Donc les questions étaient plutôt ciblées sur l'histoire du bâti, comment, sur les plans des maisons, sur les données architecturales et sur tout ce que je vous ai appelé les artefacts, donc les céramiques, les verres, les objets métalliques, etc.
C'est ça qui est passionnant finalement avec votre métier d'archéologue, c'est que c'est un métier qui évolue sans cesse. On n'aurait pas imaginé, comme je disais tout à l'heure, il y a 40 ans ou 50 ans, comment l'archéologie a pu devenir aujourd'hui. Et finalement, on imagine que dans plusieurs dizaines d'années, on utilisera encore des techniques plus pointues, en tout cas différentes, qui permettront de découvrir des choses qu'on n'a pas pu découvrir encore aujourd'hui. Donc ça va évoluer en permanence.
Oui, ben, on peut citer deux exemples. Je vais citer le système LIDAR, en fait, aéroporté, donc en fait c'est une sorte de laser, et ce LIDAR permet, avec le logiciel adapté, donc en balayant une surface, y compris sous forêt, le rayon pénètre dans quelques centimètres dans le sol, et donc on a une cartographie de ce qui est en dessous. C'est assez formidable.
Oui,
j'ai quitté mon métier avec les premiers masters et premières thèses qui sortaient à partir de l'utilisation de cet outil.
Oui, j'ai vu des images et effectivement, c'est assez saisissant. Il y a un niveau de précision assez impressionnant.
Eh bien, on peut citer l'exemple d'une de ma dernière promotion d'étudiante que j'ai encadré, qui a fait son master 1 et elle va continuer ou en thèse sur le massif de l'Oris, par exemple.
C'est ce que j'allais dire. En fait, la technique du LIDAR a été utilisée dans le département du Loiret, également sur Chambord, je crois, et même sur Artenay, si je me souviens bien. Artenay, Chevilly, il y a eu des investigations qui ont été faites au LIDAR, non ?
Alors peut-être, oui, ça, je ne sais pas. Et alors l'autre technique qui est au sol, cette fois-ci, c'est tout ce qu'on appelle la prospection géophysique. Donc c'est pareil, là, eh bien, on se balade à pied en ligne, on le fait de façon structurée, avec des appareils qui vont envoyer, par exemple, un courant électrique, prospection électrique. Et donc, suivant qu'on traverse, on va traverser un mur, un fossé, ou que de la terre, la réponse n'est pas la même et donc on va avoir là aussi un schéma.
Qu'on s'entende bien, ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle communément les poils à frire, c'est-à-dire les amateurs qui se baladent dans les champs à la recherche de pièces de monnaie.
Pas du tout, la chasse au trésor, c'est interdit en France et un chasseur de trésors avec sa poêle à frire surpris dans un champ, eh bien peut être verbalisé.
Oui, il fallait le signaler, il fallait l'expliquer. Voilà. Donc ces nouvelles techniques, bon effectivement c'est intéressant, Marie-Christine, vous nous en avez parlé un petit peu. Dans une deuxième partie de l'émission, on va un petit peu plus parler de ce qui a pu se passer dans le département, de ce qui a pu se passer en Beauce. On va essayer de savoir un petit peu ce qui s'est passé en Beauce à l'époque gallo-romaine, à l'époque néolithique, grâce notamment aux prospections qui ont été faites suite au chantier de l'autoroute A19. On se retrouve après une petite coupure publicitaire. À tout de suite.